Chapitre 11 Entretien des deux écuyers. Il faut convenir, monsieur, dit l'inconnu, que la vie que nous menons à la suite des chevaliers errants est une terrible vie. Nous ne mangeons pas un morceau de pain qu'il ne soit acheté à la sueur de notre front.
Cela est vrai, monsieur, répondit Sancho.
Encore ce pain manque-t-il souvent. Et vous savez comme moi que l'on est quelquefois 2 jours sans autre nourriture que le vent qui souffle.
Je n'en disconviens pas, mon cher confrère, mais heureusement, on est soutenu par la certitude des récompenses. Il est si rare qu'un chevalier ne trouve pas l'occasion de donner à son écuyer quelque duché, quelque maquisat un peu raisonnable.
Puisque nous en sommes là-dessus, monsieur, je ne vous cacherai point que j'ai déjà dit à mon maître que je me contenterai d'une petite île. Mon maître me l'a promise, et je l'attends tous les jours. Moi, j'ai demandé au mien un petit canonica, qui va m'arriver un de ces matins.
Ah, j'entends, votre maître est sans doute un chevalier errant d'église. Le mien n'est qu'un séculier. Quelques personnes, que je n'aime guère, voulaient lui persuader de se faire archevêque. Ça m'aurait causé, je vous l'avoue, le plus grand désembarras, car je ne fais pas le fin, je ne vaux rien pour être un ecclésiastique. Un bénéfice me gênerait. Grâce au ciel, mon maître ne s'en est pas soucié. Il a fort peu d'ambition, ses désirs sont très modérés, et sans aller chercher midi à 14 heures, il persiste tout bonnement à devenir empereur. Mais écoutez donc, mon confrère, je ne sais guère si le gouvernement de cette île dont vous me parliez ne sera pas aussi gênant que pourrait l'être un bénéfice. Je connais ces charges-là. Elles ne sont rien moins que légères. Et le métier de gouverner les autres n'est pas toujours un joyeux métier. Je vous assure que nous ferions mieux de nous retirer chacun dans notre petite gentilhommière où nous occuperions nos loisirs dans des exercices doux et agréables comme la chasse, la promenade, la pêche. Au bout du compte, qu'allons-nous chercher? Il n'y a pas un de nous autres qui n'ait son petit château, un bon cheval, une paire de lévriers et une ligne pour se divertir.
Sans doute, monsieur, sans doute. Et j'ai bien tout ce que vous dites là, excepté qu'au lieu du cheval, j'ai un âne, mais un âne excellent, superbe, tout gris, que je ne troquerai pas ma foi contre le cheval de mon maître. Quant au lévrier, je n'en ai pas non plus. Mais il y en a de reste dans notre village, et j'aime beaucoup à chasser avec les chiens d'autrui. Eh bien, croyez-moi, faisons une fin. Laissons là toutes les chevaleries et retirons-nous dans nos terres, pour nous occuper en paix de l'éducation de nos enfants. Moi qui vous parle, j'en ai 3, qui sont 3 petits bijoux. J'en ai 2, monsieur, qui sont sans vanité, pourraient être présentés au pape, surtout mon aîné, qui était un si joli brin de fille. Je l'élève pour être comtesse, quoique sa mère ne le veuille pas.
Quel âge a-t-elle, monsieur, cette future comtesse?
Mais elle approche de 15 ans. Déjà, cela vous est grand d'une toise, gentil, frais comme une matinée d'avril, leste, découplé, gaillard et surtout fort comme un turc. Diable, voilà de bonnes dispositions pour être comtesse.
Oh, sa mère a beau dire, elle le sera.
Parlons de nos maîtres, reprit l'écuyer. Êtes-vous content du vôtre?
Assez, répondit Sancho. Il est un peu fou, mais il est bon homme, incapable de faire du mal à qui que ce soit, désirant du bien à tout le monde et si simple qu'un enfant lui ferait croire qu'il est nuit en plein jour. Aussi je l'aime comme la prunelle de mes yeux et je donnerai ma vie pour lui.
Le mien n'est pas plus sage qu'il ne faut. Mais il s'est fait fou volontairement pour rendre le bon sens à un autre. Quant à sa force, à sa valeur, elles sont extraordinaires. Pendant cette conversation, Sancho toussait et crachait fréquemment, comme quelqu'un qui a besoin de boire.
« Vous avez la langue sèche, dit l'écuyer inconnu. Je vais vous chercher un excellent remède que je porte toujours avec moi. »
Il se lève alors et revint avec une grosse bouteille de cuir pleine de vin et un pâté long d'une demi-aune.
« Ah, mon Dieu !» s'écria Sancho. « Qu'est-ce que cela, monsieur ?»«
C'est un méchant pâté de Levrault. »
« Juste ciel ! Ce Levrault-là était aussi gros qu'un chevreuil. »«
Quoi, monsieur, vous portez avec vous des pâtés pareils ?»«
Ah, je n'y manque jamais !»«
Et vous ne voyez là que le reste de nos provisions. »
« Diable !» répétait Sancho en se hâtant d'ouvrir le pâté, dont il saisit une part énorme.
« Vous êtes, je le confesse, un écuyer admirable, magnifique, grand, libéral, digne d'être à jamais aimé de ceux à qui vous faites l'honneur de les admettre à votre table.
Hélas, malheureux que je suis, mon pauvre Bissac ne contient qu'un peu de fromage, si dur qu'il casserait la tête d'un géant. Quelques carottes, quelques avelines, voilà tout. Mon maître prétend que les chevaliers ne doivent manger que des fruits secs.
« Fi donc, mon confrère, répond l'inconnu. Ah, je voudrais voir que mon maître s'avisa de m'imposer ce régime. Ces messieurs n'ont qu'à vivre selon leurs lois, mais j'ai toujours à mon arceau, d'un côté, une bonne cantine de viande froide, et de l'autre, cette bonne bouteille que j'aime, que je chéris et que j'embrasse à tout moment.
« Monsieur, répondit Sancho d'une voix tendre, voulez-vous bien me permettre de l'embrasser une fois ?» L'inconnu remit alors la bouteille dans ses mains. Sancho la porte à sa bouche, et se renversant sur le dos, il se met à regarder les étoiles, et demeure au moins un quart d'heure dans cette position qui lui plaisait. En se relevant, il fit un soupir, laissa tomber sa tête sur son sein.
« Ah, monsieur, dit-il, ah, monsieur, c'est lui, je le reconnais. Il est de Ciudad Real. Vous avez raison, c'est de là qu'il est. De plus, il a quelques années.
À qui le dites-vous ? Mon Dieu ! Il n'y a pas de vin dont je ne devine, à la seule odeur, le pays et la qualité. C'est une vertu, un don de famille. Imaginez-vous que j'ai eu deux parents, du côté paternel, qui furent les meilleurs buveurs, les ivrognes les plus renommés de la Manche. Un jour, on vint les prier de juger d'un certain vin. L'un approcha son nez du gobelet, l'autre en mit une seule goutte sur sa langue. Le premier dit « Ce vin-là est bon, mais il sent le fer. » L'autre dit « Ce vin-là est bon, mais il sent le cuir. » Le maître du tonneau soutint que cela n'était pas possible, que jamais ni fer ni cuir n'avaient approché de son vin. Au bout d'un certain temps, le tonneau vidé, l'on retrouva dans la lie une très petite clé attaché à un très petit cordon de cuir. Jugez, monsieur, si le descendant de ces deux grands hommes doit sentir le prix du bon vin que vous avez la bonté de lui offrir. » Ce discours fut suivi d'une nouvelle visite à la bouteille. Enfin, quand nos écuyers furent las de boire et de babiller, ils s'endormirent l'un près de l'autre.